Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite, 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de cette émission. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver. Alors je vous cache pas que avec ces temps compliqués que l'on traverse là depuis quelques semaines, j'ai pas une voix formidable, mais je fais appel à votre indulgence, bien évidemment, pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. Au niveau de l'actualité scientifique, il y a encore pas mal de choses qu'on va développer aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'évoquer deux petits articles lors de l'émission de la semaine dernière. Donc du coup, je les récupère ici. Il y en a une information qui est assez intéressante, c'est cette découverte paléontologique assez incroyable qui est relayée par l'Université de Milan dans un communiqué. En fait, ils se sont promenés dans des Alpes italiennes l'été dernier, Claudia Stephenson et son mari, et ils remarquent de façon un peu inopinée des traces assez étranges qui semblent être imprimées à la surface d'une dalle rocheuse qui est bien lisse. Et donc, ils sont intrigués un petit peu par la forme et la régularité de ce schéma, parce que ça laisserait penser à des empreintes. Donc la randonneuse, elle prend une photo qui sera transmise au paléontologue du Muséum d'Histoire Naturelle de Milan. Et pour les experts, il n'y a aucun doute, en fait, Claudia Stephenson est bien tombée sur des empreintes laissées par un reptile il y a bien longtemps. Vous pouvez regarder sur certains sites internet, notamment sur le site de Futura et je crois qu'on le retrouve également dans Science et Vie, cette image de cette espèce de dalle et on voit effectivement des traces, des petits pas. L'âge de cette piste serait d'ailleurs particulièrement ancien, ce que les chercheurs ont daté cela à 280 millions d'années. Donc c'est vrai que c'est assez ancien. Cette époque, on l'appelle le Permien. Les dinosaures n'existaient pas encore et les Alpes encore moins. Il faut rappeler que le paysage tectonique était bien différent d'aujourd'hui parce que toutes les masses continentales étaient regroupées sous la forme d'un unique continent à l'époque, hein, il y a 280 millions d'années. Et les empreintes, elles auraient été laissées par un reptile ancêtre des dinosaures. Et les fouilles ultérieures qui se sont tenues sur le site de la découverte ont d'ailleurs permis de mettre en évidence de nombreuses autres pistes fossiles laissées par des reptiles, des amphibiens, mais aussi des invertébrés comme des insectes ou des arthropodes. Et la taille de certaines empreintes suggère d'ailleurs que ces promeneurs pouvaient atteindre 2 à 3 mètres de long, hein, notamment pour ce reptile, ce qui est quand même assez conséquent. Certaines dalles présentent même plusieurs pistes associées à des espèces différentes. Et c'est une occasion unique, un peu, de reconstruire la biodiversité d'un lieu à un temps donné, mais aussi ce qu'on appelle le paléo-environnement, donc l'environnement dans cette époque paléolithique. Les empreintes ont en effet été faites lorsque les grès et les schistes, qui étaient à l'époque que du sable et de la boue, étaient imbibés d'eau, c'était sur les berges de rivières ou de lacs, et selon les saisons, ça pouvait s'assécher. Et du coup, le soleil, l'été, va dessécher un petit peu ces surfaces, ça va les durcir, au point que le retour de l'eau, ça n'a pas effacé les empreintes, mais au contraire, ça a permis de recouvrir d'argile, donc quelque part, ces empreintes qui se sont formées, on a mis dessus comme une espèce de couche protectrice, ce qui fait qu'on a pu du coup les conserver pendant ces 280 millions d'années. C'est Ausiono Ronchi qui est le directeur le directeur des départements des sciences de la Terre et de l'environnement de l'université de Pavie, qui a donc étudié cela et qui a expliqué justement qu'il y a pu avoir des traces à ce moment-là et ça a été recouvert, et recouvert d'une façon protectrice, si bien que les empreintes, on peut réussir à les obtenir encore maintenant. Les scientifiques espèrent désormais valoriser ces incroyables découvertes, notamment via une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Milan. Donc sur le site internet, j'ai pas vérifié, mais sur le site internet du Muséum d'Histoire Naturelle de Milan, vous aurez, je pense, la possibilité de pouvoir récupérer un petit peu les images de ces empreintes. Autre information que j'ai pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière, c'est les experts qui prévenaient depuis presque 40 ans que les ouragans deviendraient plus dangereux chaque année. Le changement climatique anthropique, donc anthropique, c'est-à-dire que c'est un changement climatique dû à l'activité humaine, eh bien ce changement allait faire grimper en flèche la puissance des ouragans. Il y a des chercheurs du Centre de recherche sur le climat aux États-Unis qui le confirment aujourd'hui avec des chiffres et des modèles à l'appui. Depuis 5 ans, pas moins de 85% des tempêtes ont été affectées par le réchauffement. Le chiffre monte à 100% pour l'année 2024. La plupart des ouragans ont même sauté une catégorie entière sur l'échelle qui les classe en fonction de leur intensité. Dans la revue Environmental Research Climate, les chercheurs précisent que les vitesses maximales des vents des ouragans de l'Atlantique sont désormais plus importantes d'environ 29 km par heure en moyenne, ce qui est quand même assez important. La plus forte augmentation a été enregistrée pour les ouragans Humberto en 2019 et Zeta en 2020. Leurs vents ont soufflé 50 km par heure plus vite qu'ils ne l'auraient fait sans le réchauffement climatique anthropique. Et donc les chercheurs expliquent que le phénomène est principalement lié à la surchauffe des océans, parce que l'Atlantique, les Caraïbes, le Golfe du Mexique, tout ça, ça se réchauffe. Plus ça se réchauffe, plus l'énergie potentielle des tempêtes augmente. Or, on s'est rendu compte justement que ces zones à ouragans, les eaux où se forment ces ouragans, ont déjà grimpé en moyenne de près de 1,6 degrés, voire jusqu'à plus de 2 degrés Celsius à certains endroits, ce qui est faramineux. Et cette année, il y a eu 2 ouragans qui ont été classés en catégorie 5. Et l'analyse des chercheurs de ce centre de recherche sur le climat montre que, je cite, « nous n'aurions eu aucune tempête sans le changement climatique d'origine humaine ». Alors l'ennui, c'est que les dégâts causés augmentent parfois fortement avec la catégorie, parce qu'un ouragan de catégorie 5, et on en a eu encore récemment, ça cause 5 fois plus de dégâts qu'un ouragan de catégorie 4. Et c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire que ça va même être 140 fois beaucoup plus qu'un ouragan de catégorie 3. C'est-à-dire que plus on monte dans l'échelle des catégories d'ouragans, plus les dégâts deviennent importants de façon exponentielle. Et en fait, le fait de grimper de 2 catégories, c'est ce qu'ont déjà fait 3 ouragans depuis 5 ans, dont le récent ouragan Raphaël. Et si bien que ça devient assez inquiétant, même si les scientifiques en fait l'avaient prédit il y a 40 ans, ces ouragans qui deviennent plus dangereux chaque année. Et c'est vrai que cette année, c'était quand même assez effrayant et assez illustratif. Voilà, c'était 2 petits articles que je n'avais pas eu le temps d'évoquer lors de l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Pas grand-chose dans l'éphéméride. Alors, au niveau sciences et techniques, on n'a pas eu énormément de découvertes qui ont été annoncées un 30 novembre. Il y a une naissance que je souhaitais évoquer. C'est la naissance, le 30 novembre 1858, de Jagadish Chanda Bose, physicien, botaniste, pionnier de la radio. Il est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Bangladesh. Il est assez éclectique. En 1902, il suggère l'existence de parallèles entre les réponses physiologiques observées dans le vivant et certaines réponses électrochimiques observées dans le non-vivant. Et Bose y réalise une série de travaux pionniers sur les ondes électromagnétiques. Il exploite en fait ce domaine en même temps que Tesla. Nous sommes à la fin du 18e siècle. Tesla, c'est lui qui sera accrédité de l'invention de la radio. En novembre 1894, Bose effectue sa première démonstration publique de manipulation et d'utilisation d'ondes radio. Il utilise un flux de micro-ondes qui fait sonner une cloche à distance pour faire exploser une charge de poudre. Il y a des illustrations qui montrent cette expérience qui est assez fascinante. Nous sommes en 1894 et ça a été à l'origine donc par Jagadish Chandra Bose, qui est donc né un 30 novembre 1858 au Bangladesh. Voilà pour l'éphéméride de ce 30 novembre. Il n'y a pas de décès un 30 novembre, enfin un décès marquant dans le domaine scientifique, j'en ai pas trouvé. Mais bon, on pouvait en tout cas évoquer Bose. Et puis avec ces éphémérides, on a toujours, ce qui est assez intéressant, c'est le côté historique, essayer de pouvoir remettre un petit peu dans le contexte et avoir une certaine notion de date, parce que tout ça nous dépasse aussi un peu, ça nous échappe parfois. Alors, quand je sens que je vais trimballer ce chat dans ma gorge pendant toute l'émission, j'en suis désolé par avance. Pas mal d'articles assez intéressants qui parlent notamment un petit peu de notre vie quotidienne et de l'utilisation de certains de nos objets, et notamment l'utilisation du smartphone. Futura Science revient sur ce qu'on appelle le doom scrolling. C'est une question de défilement qu'on peut qualifier de morbide ou de catastrophique. En fait, c'est quand on fait défiler les yeux rivés sur notre portable, plein de vidéos comme ça. C'est ce qu'on appelle le doom scrolling parce que ce n'est pas sans conséquences pour notre santé mentale. Le smartphone dans les mains, le cou incliné, le pouce qui s'agite de haut en bas de façon frénétique. Parfois, on s'arrête un peu parce qu'on veut liker une vidéo. Eh bien, le quotidien de certaines personnes apparaît désormais envahi par ce scrolling incessant qui fait défiler une quantité d'informations, de vidéos, de photos sous nos yeux, sans vraiment se rendre compte du temps qui passe de manière automatique et inconsciente. Il y a une étude qui a été publiée il y a 2 ans dans la revue Health Communication qui montre que près de 17% des personnes interrogées montrent des signes de consommation d'informations gravement problématiques. On est en 2022. Parmi eux, les 3/4 déclaraient avoir des problèmes de santé mentale. 61% également signalaient des problèmes physiques. Les conséquences sur la santé mentale et émotionnelle de ce phénomène commencent à être en effet bien documentées, comme le confirme par exemple le professeur Sochuk, qui est professeur en psychologie à l'université de Rochester aux États-Unis. Il explique « Le doom scrolling affecte la santé mentale et émotionnelle en amorçant et en amplifiant les états émotionnels négatifs à l'image de la dépression, de l'anxiété, de la colère, du dégoût. » L'explication pour lui, c'est que le cerveau, il a automatiquement... En fait, pour lui, il explique, le cerveau, il a automatiquement tendance à prêter attention à la menace et à la nouveauté. Soit exactement ce que proposent les réseaux sociaux. Et donc, à ses yeux, les premiers pas paraissent bien souvent pavés de bonnes intentions. On a envie, dit-il, tout simplement de se tenir au courant de l'actualité, de divertissement, d'influence, etc., selon nos propres intérêts. Et ces contenus qui sont alimentés par les algorithmes des réseaux sociaux visent un petit peu à maintenir notre cerveau en éveil pendant une période prolongée. Et donc le professeur Sochuk ajoute, plus nous sommes exposés longtemps à ce contenu négatif, plus notre humeur peut décliner. On peut ensuite se sentir émotionnellement déprimé, anxieux, irrité, tendu, inquiet. Sans compter que ce temps passé nuit à la pratique d'autres activités qu'il lui va qualifier de plus saines pour notre organisme et notre santé mentale. Le fait de discuter avec les proches, à rigueur ça pourrait être intéressant, de participer à un jeu, de marcher en plein air, ou tout simplement dormir, bien évidemment. Et donc le psychologue, il insiste, je cite, « Il est important d'avoir conscience comment tout cela fonctionne pour mieux prévenir les effets néfastes. » Alors, avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, il va préconiser de réaliser une brève évaluation de son humeur au moment où on va utiliser notre téléphone. Et donc, une échelle qui va de 0 à 10. 0, on est plutôt dans une humeur négative. 10, dans une humeur plutôt positive. Puis, l'idée pour lui, c'est de renouveler cet état des lieux après 15 minutes d'utilisation de ce téléphone en réglant une minuterie. Et il dit, vous constaterez au bout d'un certain temps que votre humeur décline. Changez de contenu en vous tournant sur du plus léger ou alors fermez l'application et basculez vers une activité positive. Appelez un ami, sortez. C'est ce que recommande donc ce psychologue, le professeur Sochuk. Et pour savoir comment évolue votre état d'esprit, eh bien, c'est très simple selon lui. Il dit, demandez-vous si vous vous sentez mieux ou pire après avoir passé du temps à scroller sur votre téléphone. Et par ailleurs, dit-il, prenez parfois un peu de hauteur pour voir si vous avez récemment cessé ou ralenti des activités, comme la pratique d'une activité physique par exemple. Et donc le cas échéant, demandez aussi à vos proches ce qu'ils en pensent. Et le professeur Sochuk de conclure, l'objectif est de se donner un peu d'espace pour être en mesure d'apporter des changements susceptibles d'améliorer notre humeur et notre fonctionnement. Attention, donc ce réflexe un peu banal du doom scrolling avec notre smartphone pourrait nuire à notre santé mentale. Il y a de plus en plus d'articles qui reviennent sur ce genre de pratique et sur les conséquences qu'il peut y avoir, bien évidemment. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Ben nous, on va aussi un petit peu faire une petite respiration musicale. Cette fois-ci, vous êtes bien sur Graphite. Crying Gang, c'était Molly Lewis sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Dans cette émission, on parle souvent d'espace parce que c'est un petit peu la décennie où il y a pas mal de choses qui se mettent en place au niveau de la Lune, au niveau de Mars. Eh bien, en fait, ça change encore parce que maintenant, on va parler de Vénus. Vénus qui est en passe de devenir la nouvelle planète star de notre système solaire. Étant donné que la Chine et les États-Unis ne devraient pas rapporter d'échantillons martiens avant la fin de la décennie. Eh bien donc la NASA, les agences spatiales européennes et indiennes comptent toutes envoyer des sondes auprès de notre autre planète voisine à l'atmosphère un petit peu démoniaque. La Chine comptait en fait déjà envoyer dans les prochaines années une sonde orbitale nommée Voice autour de Vénus. Et donc dans une nouvelle feuille de route du programme des sciences spatiales qui a été diffusée il y a quelques semaines par l'agence spatiale chinoise, eh bien cette mission a été remplacée par une autre mission beaucoup plus ambitieuse, parce que cette fois-ci, la Chine compte prélever des échantillons d'air issue de la très épaisse atmosphère de Vénus et rapporter tout ça sur Terre pour pouvoir étudier ces échantillons en laboratoire. Ce genre de mission, c'est un peu le Graal des planétologues qui pourront tirer beaucoup plus de données de qualité qu'une étude sur place. Alors, on ignore encore comment ces échantillons seront prélevés. Il a longtemps été suggéré d'utiliser des ballons pour pouvoir flotter dans l'atmosphère de Vénus. En fait, ce procédé, il a notamment été suggéré dans les années 1960 par l'ancien directeur scientifique et technique du CNES. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, Jacques Blamont. Et la feuille de route chinoise, elle nous renseigne de nouveau sur ces objectifs à court terme qui ont été donc rappelés il y a quelques jours par l'ingénieur en chef Jiaoping Li lors du Congrès international d'astronautique de Milan. À savoir, il y a donc plusieurs missions vers la Lune, dont un premier vol habité, Mars, Jupiter et un astéroïde, l'astéroïde Kamo-Oa-Leva. La feuille de route inclut également diverses missions de télescopes spatiaux pour étudier le Soleil ou encore les exoplanètes. La Chine, elle est vraiment en plein essor dans cette conquête spatiale. Et donc, ben voilà, on rajoute Vénus un petit peu dans la feuille de route avec l'idée pour la Chine de collecter de l'air de Vénus, de le ramener sur Terre et de pouvoir l'étudier. C'est intéressant parce que c'est pas souvent qu'on évoque Vénus dans cette émission. Autant la Lune et Mars, on en a très très souvent parlé dans cette émission. Autant Vénus, c'est assez rare. Et donc, bah, Vénus, c'est pas si loin que ça. Donc, de façon relative, bien évidemment. Mais enfin, ça peut être possible de pouvoir récupérer un peu d'atmosphère de Vénus et de ramener ça sur Terre pour pouvoir l'étudier, bien évidemment. Ça revient moins cher d'aller chercher de l'air et de le ramener sur Terre pour l'étudier que d'aller envoyer des astronautes ou des taïkonautes, en ce qui concerne les Chinois, pour ensuite étudier sur place, bien évidemment. Toujours dans les airs, il y a cette question qui est assez mystérieuse, on va dire, un objet volant de forme cylindrique qui met en danger un avion de ligne près de New York. Cet avion de ligne, il était en vol au large des côtes de New York et il a failli entrer en collision avec un objet cylindrique de nature inconnue. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un ovni ? C'est toute la question. Cet événement assez étrange, il s'est déroulé entre mai 2023 et juin 2024. À la date précise, n'a pas été communiqué. Et ça fait en tout cas l'objet d'une enquête approfondie de l'administration américaine et notamment d'un bureau qui s'appelle l'AARO, un bureau qui est l'équivalent de notre fameux GEPAN qui cherche un petit peu des explications sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et justement, le bureau américain a décidé de ne plus utiliser le terme OVNI pour le remplacer par le mot PAN, c'est-à-dire P-A-N, phénomène aérospatiaux non identifiés. On l'avait évoqué il y a quelques semaines dans cette émission, comme en France. Donc on va plus parler d'OVNI, mais on va parler de PAN ou de PAN d'ailleurs. PAN, l'organisme, vient tout juste de publier son dernier rapport annuel qui porte sur ces phénomènes. Et donc il couvre sur la période de mai 2023 à juin 2024. Et comme il n'a pas daté précisément quand a eu lieu ce phénomène et cette histoire notamment de collision évitée de justesse, on n'a pas la date précise quand cela a eu lieu. Au total, il y a plus de 750 nouveaux cas qui ont été signalés cette année aux États-Unis. 108 ont été observés dans le ciel et presque une cinquantaine dans l'espace. Et la conclusion générale est qu'aucune preuve d'être, d'activité ou de technologie extraterrestre n'a été identifiée lors des enquêtes. Sur les 49 dossiers ayant engendré des enquêtes plus approfondies, plus de 70% des observations étaient attribuées à la simple présence de ballons. Le reste repose essentiellement sur des drones, des oiseaux, des avions et des satellites. Et ces derniers cas étaient d'ailleurs bien souvent liés à l'expansion de la constellation Starlink de SpaceX, bien sûr. Donc il y a beaucoup plus de choses dans l'espace. Donc du coup, on distingue de plus en plus d'éléments un peu particuliers, on va dire. Et en général, les signalements recueillis évoquent, dans près des deux tiers des cas, des lumières dans le ciel. Et donc, a priori, les soucoupes volantes n'ont plus la cote, puisqu'elles ne représenteraient que 1% des signalements. On a perdu la mode des soucoupes volantes. En revanche, les objets arrondis, dont les sphères, pesait à hauteur de 22% dans les rapports. Alors l'essentiel des cas, c'est à peu près 400 cas, ont été archivés en raison de données insuffisantes. Ces cas pourraient être réexploités s'il y a des nouveaux faits similaires qui seront signalés. Toutefois, 21 cas font l'objet d'un peu plus d'attention de la part de l'organisme. Ils pourraient potentiellement révéler des technologies aérospatiales révolutionnaires potentiellement d'origine étrangère, mais certainement pas extraterrestres, nous dit-on. Et des intrusions dans le ciel américain qui posent des questions de sécurité, bien évidemment. C'est aussi le cas de 18 signalements d'engins sur des zones protégées. Il s'agissait systématiquement de drones, en réalité. Certains ont même survolé une installation nucléaire en Virginie plusieurs nuits d'affilée. Dans presque tous les cas, de nombreuses données manquent pour classer les dossiers. Et c'est pour cette raison que cet organisme américain teste actuellement un nouveau système de capteurs à l'appellation évocatrice de Gremlin. Oui, effectivement, ils ont bien choisi le nom. Le procédé, en fait, ça combine un radar classique, un radar en trois dimensions, un système de GPS, des ondes radio, un spectre infrarouge, et puis recueillir des données de vol aéronautique en temps réel. Le système permettrait alors d'accélérer la clôture des dossiers en identifiant rapidement la cause réelle d'une observation. Donc la chasse aux ovnis, la chasse aux paons n'est donc pas fermée, mais les cas les plus farfelus devraient donc être éliminés plus rapidement. Reste que cette étrange histoire inexpliquée d'objets cylindriques à proximité d'un avion de ligne au bord de New York permet de laisser encore un peu accroché au mur le fameux poster « I want to believe », »,« Je veux y croire » de X-Files, bien sûr, pour ceux qui connaissent cette série. Mais voilà, on n'en sait pas plus sur ce mystérieux objet volant de forme cylindrique qui s'est approché un petit peu dangereusement d'un avion de ligne près de New York. Mais peut-être qu'un jour on aura une explication précise sur ça, on ne sait rien. On se trouve, l'explication, c'est peut-être tout simplement de l'espionnage. Peut-être, allez savoir, bien évidemment. Et aujourd'hui, dans cette émission, 30 novembre, nous allons enfin pouvoir répondre à cette question qui taraude les scientifiques depuis bien longtemps. La question, c'est celle-ci. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier? C'est une problématique assez fondamentale dans le domaine scientifique qui s'intéresse à l'évolution du vivant. L'idée, c'est de savoir si le mode de reproduction qui caractérise le règne animal est apparu avant ou après l'apparition des premiers animaux, il y a 600 millions d'années environ. Ce mode de reproduction, l'œuf, la poule et le mode de reproduction, c'est l'embryogenèse. L'embryogenèse, c'est le processus que l'on retrouve au sein du règne animal, mais aussi au sein du règne végétal, qui permet en effet la formation d'un nouvel organisme à partir de la division d'une unique cellule œuf qu'on appelle le zygote. Et on voit bien là le problème qui s'impose aux chercheurs depuis des siècles. Si le développement embryonnaire implique une division cellulaire, il ne peut se produire que chez des êtres qui ont plusieurs cellules, ce qui impliquerait que la poule était là avant l'œuf. Mais d'un autre côté, le développement d'êtres pluricellulaires, donc d'êtres qui ont plusieurs cellules, nécessitent l'embryogenèse, donc que l'œuf, il ait existé avant l'être multicellulaire qui est la poule. Et c'est ainsi que l'on se retrouve coincé dans la matrice, en fait, quelque part, pour essayer de répondre à cette question. Pourtant, la découverte en 2017 d'un organisme microscopique pourrait bien avoir apporté la réponse à cette question a priori insoluble. Il s'agit de ce qu'on appelle un protiste unicellulaire. Donc c'est vraiment un organisme microscopique qui n'a qu'une seule cellule, qui s'appelle Chromosphera perkinsi. Il a été découvert dans des sédiments marins au large d'Hawaï. Et la première apparition pourrait dater d'il y a 1 milliard d'années, soit bien avant le développement des premiers animaux. Alors rappelons que si la vie sur Terre est apparue il y a plus de 4 milliards d'années, elle est restée sous une forme unicellulaire, donc une seule cellule, pendant la majorité de son histoire. S'il y a quelques organismes pluricellulaires qui commencent à voir le jour il y a 2 milliards d'années, ce n'est que beaucoup plus, de façon beaucoup plus récente, à l'échelle du temps bien sûr, 600 millions d'années environ, que la vie pluricellulaire va réellement prendre son essor et mener à l'apparition des tout premiers animaux, qui se caractérisent alors par la mise en œuvre de l'embryogenèse pour se reproduire. Aujourd'hui, on observe ainsi que toutes les espèces animales présentent des états de développement embryonnaire très similaires, ce qui fait penser que ce mécanisme est apparu très tôt, soit en même temps que les tout premiers animaux, soit avant. Or, c'est bien vers cette seconde option que s'orientent désormais les scientifiques grâce à l'analyse de cette petite cellule, la Chromosfera perkinsi. Dans le schéma évolutif du vivant, eh bien, cette petite cellule, qui est une espèce de petite algue, en fait, une micro-algue, très simple, elle se serait séparée de la lignée animale il y a plus donc d'un milliard d'années. Et pourtant, les chercheurs y ont observé un processus qui rappelle un peu trop l'embryogenèse. Ces organismes qui n'ont donc qu'une cellule une fois qu'ils sont en phase de maturité, ils ont la capacité de se diviser pour former non pas un être multicellulaire plus complexe, mais une colonie composée de plusieurs petites algues d'une seule cellule. Et ces colonies multicellulaires comprennent d'ailleurs deux types de cellules différentes. C'est un comportement qui imite de façon un petit peu similaire le développement embryonnaire. Et on se dit, oh, c'est trop similaire pour que ça soit une simple coïncidence. Et donc, pour les chercheurs de l'Université de Genève qui ont publié leurs résultats dans la revue Nature, ce comportement de cette petite algue suggère que le mécanisme de coordination multicellulaire et de différenciation existait bien avant l'apparition des premiers animaux. Donc, le programme génétique gouvernant l'embryogenèse, en fait, le mode d'emploi pour former l'œuf, en quelque sorte, aurait donc était déjà présent il y a un milliard d'années, voire plus. On pourrait donc dire que l'œuf aurait bien existé avant la poule. C'est ce que révèle cette étude. Et alors, franchement, d'avoir cette réponse à cette question que l'œuf aurait bien existé avant la poule est quand même une révélation assez fascinante. Alors, effectivement, le texte est assez complexe, surtout par le média radio, parce que ça aurait été bien de faire un petit schéma, mais l'idée, c'est que, voilà, on a montré avec cette petite algue qui s'appelle donc Chromosfera perkinsi, une micro-algue qui a une seule cellule, cette algue, eh bien, elle aurait un principe un petit peu qui permettrait de répondre à cette question. Comme elle est très très ancienne avant l'apparition des premiers animaux, eh bien, on a donc ce mode d'emploi pour former un œuf qui est donc présent il y a très très longtemps. Donc l'œuf avant la poule. S'il y a une chose à retenir de cette émission, c'est que l'œuf est apparu avant la poule. Voilà, comme ça on le sait, c'est dit, c'est clair. En tout cas, c'est cette étude parue dans la revue Nature quand même, excusez du peu, qui nous permet voilà, de pouvoir avoir enfin une réponse à cette question. Eh bien, ça va nous permettre de souffler un petit peu et nous ramène de nos émotions, maintenant qu'on sait que l'œuf est arrivé avant la poule, pour écouter Cutworms sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. I just take Take it and smile, c'était Cute Worms sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 10h et 13h. La rediffusion le mardi matin à 10h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et bien pendant une heure, on feuillette comme ça la revue de presse d'actualité scientifique. Il y a pas mal de sites assez intéressants qui vous permet d'avoir une information assez, j'allais dire, digeste, dans le sens où c'est quand même vulgarisé, ça permet d'avoir les informations pour pouvoir les comprendre. Et puis voilà, il y a quand même plein de sujets qui concernent notre société. Là, par exemple, cet article que j'ai trouvé dans Futura Science qui nous parle de Becca Ziegler. Becca Ziegler, elle a 24 ans et elle a déjà des projets pour l'au-delà. Elle veut que son corps soit figé dans le froid par un laboratoire de Berlin dans l'espoir d'une nouvelle vie. Cette américaine qui vit et travaille donc dans la capitale allemande a signé un contrat avec une start-up qui s'appelle Tomorrow Biostasis. Cette start-up, elle est spécialisée dans la conservation à très basse température des défunts pour les ressusciter si les progrès de la science le permettent un jour. Et lorsque son heure sera venue, eh bien une équipe de médecins qui va plonger Becca Ziegler dans une cuve d'azote liquide, donc à une température de moins 196 degrés Celsius quand même, puis ils vont transférer la capsule dans un centre situé en Suisse. De façon générale, j'aime la vie, je suis curieuse de voir à quoi ressemblera notre monde dans le futur, c'est ce qu'a expliqué à l'AFP Becca Ziegler, qui est chef de produit dans une entreprise californienne de technologie. C'est apparu quand même dans les années 1960. La cryogénisation, elle n'est plus réservée à des excentriques milliardaires ou au domaine de la fiction. On pense bien sûr à Louis de Funès dans Hibernatus. Il y a plusieurs entreprises aux États-Unis qui proposent déjà ce procédé. Et on estime à environ 500 le nombre de personnes qui ont livré leurs cadavres au froid éternel. Alors, Tomorrow Biostasis, elle a été fondée en 2020 à Berlin. C'est la première entreprise de ce genre en Europe. L'un de ses objectifs est, je cite, de réduire les coûts pour que la cryogénisation devienne accessible à tous. C'est ce qu'indique à l'AFP l'un des fondateurs qui s'appelle Emile Kenzoria. Alors, en échange d'une contribution mensuelle de 50 euros tout au long de leur vie, eh bien, la start-up s'engage à congeler ses clients après leur mort. Alors, il faut rajouter quand même une somme forfaitaire de 200 000 euros à verser après le décès. 75 000 euros pour la congélation du seul cerveau, nous dit-on. Et tout ça, ça peut être financé via un système d'assurance-vie. C'est quand même assez intéressant. L'assurance-vie va vous permettre de pouvoir verser ensuite cette somme forfaitaire de 200 000 euros. Il y en a un autre, Emile Kenzoria, le fondateur de cette start-up Giuseppe Emil Calzoria. Lui, il a 38 ans. Il est originaire de l'ouest de l'Allemagne. Il a étudié la médecine et il s'est spécialisé dans la recherche sur le cancer. Puis après, il a jeté l'éponge parce qu'il était frustré par la lenteur des progrès dans ce domaine. Il dit l'un des avantages de la cryogénisation, c'est que vous pouvez la faire dès maintenant. Et il a donc fondé cette entreprise Tomorrow Biostasis, qui précise compter environ 700 clients sous contrat et dit avoir procédé à la cryogénisation de 4 personnes à la fin de l'année dernière. Et donc, selon le directeur, donc le fondateur Emil Calzoria, le client type a entre 30 et 40 ans à peu près. Il travaille dans le secteur technologique et c'est plutôt un homme. Et lorsqu'un client décède, eh bien, l'entreprise s'engage à envoyer une ambulance spécialement équipée pour refroidir le défunt à l'aide de glace et d'eau. Le corps est ensuite infusé dans un liquide cryoprotecteur et il est transporté vers l'installation dédiée en Suisse. C'est en Suisse, en fait, qu'ils resteront congelés. En 2016, il y a une équipe de scientifiques qui est parvenue à maintenir dans des conditions parfaites le cerveau d'un lapin pendant une cryogénisation. Et cette année, il y a eu des chercheurs chinois de l'université de Fudan qui ont utilisé une nouvelle technique pour congeler des tissus cérébraux humains qui se sont avérés entièrement fonctionnels après 18 mois de cryogénisation. Et donc, pour Holger Reinsch, qui est chercheur de l'Institut de recherche de Dresde, nous sommes dans l'Allemagne de l'Est, les espoirs de rendre à la vie dans un avenir proche une personne congelée sont très ténus. Nous sommes sceptiques. Personnellement, je vous conseillerais d'utiliser un tel procédé, c'est ce qu'il a expliqué à l'AFP. Dans la pratique médicale, la limite pour la cryoconservation de structures tissulaires est de la taille et de l'épaisseur de l'ongle du pouce. Donc effectivement, un corps entier, on dépasse largement les limites. Cette situation n'a pas changé depuis les années 1970, c'est ce qu'il explique. Alors, donc le fondateur de l'entreprise, Emil Calzoria, il admet qu'il n'y a aucune garantie. Nous ne savons pas si cela sera un jour possible. Je pense qu'il y a de bonnes chances, mais est-ce que j'en suis sûr? Absolument pas. Alors, peu importe, bien sûr, ce qui se passera à l'avenir, mais Becca Ziegler, elle se dit certaine de ne pas regretter sa décision. Elle dit cela peut paraître bizarre, mais d'un autre côté, l'alternative, c'est d'être mise dans un cercueil et mangée par les vers. Oui, effectivement, vu sous cet angle, c'est peut-être plus sympa d'être dans un glaçon que d'être mangée par les vers. Oui, effectivement, on peut voir ça sous un certain angle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le côté hibernatus vous intéresserait ou pas? Voilà, c'est quelque chose qui commence à venir maintenant en Europe avec cette entreprise qui s'est installée à Berlin. Ça pose question, bien évidemment, parce que on avait évoqué dans cette émission, bien sûr, je pense qu'il parle de cette découverte en Chine, mais on avait parlé dans cette émission il y a quelques mois, ou c'est peut-être l'année dernière, je ne m'en rappelle plus, mais effectivement, de ces expériences qui faisaient que les tissus humains avaient été congelé entre guillemets et on avait pu réussir à obtenir après des congélations des tissus encore performants. Là, on est sur une notion de corps quand même en entier. C'est quand même beaucoup plus complexe, largement plus complexe, bien évidemment. Je sais pas, ça pose question. Moi, je suis toujours intéressé par ce genre de sujet, en fait, parce que ça, il y a le côté purement scientifique et technique de la chose. Et puis, il y a bien sûr toujours cette idée de la vie après la mort et l'idée de ressusciter, bien sûr. Ça, on touche à des fondements qui sont des fondements un peu du paranormal, de la religion. Enfin, voilà, ça touche vraiment des choses assez intimes qui peuvent questionner, bien évidemment. Je trouvais que cet article de Futura Science était assez intéressant parce que on a maintenant des personnes qui signent des contrats pour se faire congeler, échapper à la mort. C'est le titre de cet article de Futura Science. Allez, on va écouter encore un autre titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de choses encore je suis en train de regarder les articles. On va pouvoir encore s'occuper pour ces quelques minutes qui nous restent ensemble. Vous êtes bien sur Graphite, vous avez bien raison. Allez, on écoute Daughter sur l'antenne. pardon, excusez-moi, je t'ai trompé le micro, donc de Lion, je m'entendais plus, de Daughter sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Des petites brèves, en fait, que vous pouvez trouver dans des revues scientifiques de vulgarisation, Sciences et Vie, Sciences et Avenir, propose des petites brèves assez sympas, et notamment cette hypothèse assez intéressante qui nous explique que, comme Saturne, eh bien la Terre avait peut-être des anneaux il y a plus de 450 millions d'années. C'est en analysant les caractéristiques de très vieux cratères qu'une équipe de l'université de Monash en Australie a proposé cette théorie assez fascinante. Ces dernières années, il y a eu d'autres chercheurs qui avaient déjà identifié d'importants flux de micrométéorites dans les roches ce qui avait été créé il y a plus de 450 millions d'années. Le taux de cratérisation présentait par ailleurs un pic abrupte vers moins 466 millions d'années, tout comme les dépôts produits par de nombreux tsunamis. Donc c'est des signes d'un événement céleste majeur, donc il se passait des choses dans le ciel. Et pour enquêter sur sa nature, eh bien, l'équipe a retracé l'évolution de 21 cratères d'impact, notamment en Australie, en Europe et en Chine, et grâce à des simulations reproduisant la dérive des continents, elle a déterminé ainsi leur localisation d'origine. Or, ils se situent tous à des latitudes inférieures à 30 degrés, c'est-à-dire une bande relativement étroite qui va être centrée autour de l'équateur. C'est un résultat pour le moins surprenant, sachant que les météorites ont statistiquement, autant de chances de tomber partout sur notre planète. Et donc la probabilité pour que cette répartition soit le fruit d'un hasard, ça serait de 1 sur 25 millions, c'est ce qu'ont calculé les chercheurs. D'où l'hypothèse que ces cratères d'impact et les chutes de météorites qui les ont engendrés résulteraient d'un système d'anneaux autour de la Terre. Alors que ce soit sur Saturne, Jupiter, Uranus ou Neptune, ces structures composées de myriades de débris rocheux qui se forment toujours au niveau des équateurs planétaires, mais la question, c'est que si la Terre a eu, comme Saturne, un anneau ou des anneaux autour d'elle, comment ce disque serait-il lui-même apparu ? Les chercheurs l'expliquent par la capture gravitationnelle d'un astéroïde de plus de 10 km de diamètre dans une orbite basse équatoriale. Les forces de marée auraient un petit peu disloqué cette espèce d'astéroïde, produisant un anneau de débris d'environ 12 km de large. C'est une hypothèse très séduisante, c'est ce que commente Pierre Rochette du Centre de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, mais les arguments sont encore trop ténus. Il faudrait découvrir et analyser d'autres cratères avoir un petit peu plus de précision. Les mécanismes expliquant la capture d'un tel astéroïde ne sont en outre pas encore assez étayés. Il y a d'autres éléments de preuve qui seront donc nécessaires avant de définitivement se dire que la Terre disposait d'un système d'anneaux, il y a très très longtemps bien évidemment, mais voilà, elle aurait peut-être pu posséder des anneaux. C'est vraiment assez intéressant. Pour moi, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ça, en fait. Et donc, voilà, on aurait quelques petites explications. Toujours des petites brèves au niveau des animaux. Premièrement, ça, c'est l'université de Constance, en Allemagne, qui explique que la pieuvre, qui a plutôt un comportement et un tempérament un petit peu solitaire, eh bien, la pieuvre a peu coopéré pour chasser plus efficacement. C'est ce que montre donc une étude menée sur des vidéos qui ont été filmées en mer Rouge. On y voit une grande pieuvre bleue associée à différentes espèces de poissons qui semblent jouer chacun un rôle spécifique, notamment en lui indiquant où trouver des proies. Donc ils coopèrent ensemble pour chasser, c'est assez intéressant. L'université agricole de Pékin en Chine explique que si les abeilles se gorgeant à longueur de journée d'une boisson très sucrée, elles ne deviennent pas diabétiques, c'est grâce à leur microbiote intestinal. C'est ce que révèle une étude. Il y a 5 espèces bactériennes en particulier qui ont été identifiées comme participant à la digestion du pollen et du nectar. Elles sont essentielles à la production de l'insuline, régulant leur taux de sucre. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir peut-être des applications thérapeutiques, bien évidemment. Et enfin, l'université de Montréal au Canada, qui a voulu faire passer un examen d'électroencéphalographie à des chats sans avoir à les endormir et sans que les animaux ne s'acharnent sur les fils, il y a une équipe de vétérinaires et de neuroscientifiques qui ont eu l'idée de tisser des électrodes à poser sur le crâne dans un bonnet tricotées en laine. Et donc, on a pu faire cet examen électroencéphalographique qui s'avère nécessaire au dépistage des douleurs chroniques dont souffrent les chats atteints d'arthrose. Et donc, on a une photo dans Science et Avenir qui montre ce petit bonnet de laine avec lesquels on a mis des électrodes qui permet d'avoir des informations. Ça permet justement d'avoir un petit peu plus d'informations sans nécessairement être obligé de faire souffrir les chats, bien évidemment. Donc ça, c'est pas mal. D'autres petites brèves encore, oui, il nous reste encore un petit peu de temps. Cette fois au niveau santé, l'alternance entre des régimes riches et pauvres en graisse augmente ce qu'on appelle l'artérosclérose par rapport à un régime riche en gras continu. Ça, c'est vraiment intéressant comme étude. Plus important encore que de perdre du poids, il faut particulièrement veiller à ne pas en reprendre après un régime. C'est en substance ce qu'on peut retenir de deux études qui ont été publiées ensemble dans la revue Nature, qui ont observé la répercussion sur le système immunitaire d'un effet yo-yo. Les expériences menées sur des souris modèles par les deux équipes montrent que l'alternance entre des régimes riches et pauvres en graisse augmente considérablement l'athérosclérose par rapport à un régime riche en gras continu. C'est ce qu'explique Kate Crazy, qui est professeure en sciences de la nutrition à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, qui est donc l'une des responsables responsable de l'une des deux études. Alors, pour rappel, l'athérosclérose, c'est une affection inflammatoire chronique dans laquelle le cholestérol et les cellules immunitaires s'accumulent dans les parois des artères. Ça va entraîner la formation de plaques d'artérome qui peut obstruer la circulation sanguine. La répercussion, c'est infarctus ou AVC lorsque ces plaques se détachent et bouchent un vaisseau sanguin. Dans les deux études, aux protocoles qui sont pourtant totalement différents, les chercheurs ont constaté une accélération importante de la formation de ces plaques lorsque les souris reprenaient un régime riche en graisse après une diète. En cause, ce sont des déséquilibres dans l'activité du système immunitaire provoqués par les changements d'alimentation des rongeurs. La réexposition à un régime riche en gras entraîne la production d'une protéine inflammatoire et la baisse du nombre de macrophages. Il y a deux processus qui expliquent la croissance soudaine des plaques d'artérome. À quelques exceptions près, la plupart des données issues de l'artérosclérose chez la souris sont valables chez les humains. C'est ce qu'explique donc le professeur Kate Crazy. Donc cet effet yo-yo accentue le risque cardiaque. C'est les résultats de ces études qui ont donc été publiées dans la revue Nature. Ça c'est à prendre en considération, bien évidemment. Et enfin, pour terminer, cette petite brève qui me permet de saluer PJ, qui m'avait accompagné pendant plusieurs années dans cette émission Biotine. Ça concerne la bière à consommer, bien sûr, avec modération, parce que le CSA nous écoute. Pour savourer une bière dans les meilleures conditions, chaque détail compte, bien sûr, y compris la forme du verre. C'est ce qu'affirme un physicien brésilien de l'Université fédérale de São João, au Brésil, donc. Il a calculé quelle géométrie minimisait les transferts de chaleur. Et donc l'idée, c'était de conserver le plus longtemps possible la fraîcheur de la bière. Donc il a testé plein de verres. Et le verdict, ce sont les récipients à base étroite s'élargissant progressivement vers l'ouverture qui offrent la meilleure expérience. Donc si vous voulez conserver le plus longtemps possible la fraîcheur de votre bière, vous prenez un verre avec donc un récipient à base étroite qui va s'ouvrir légèrement vers l'ouverture. Faut pas prendre des verres au bord droit ou des verres bombés. Alors là, c'est nul. C'est quand même pas compliqué. Vous prenez un verre base étroite qui va s'élargir progressivement vers l'ouverture. C'est bien d'être chercheur au Brésil quand même. On a des études assez intéressantes. Mais comme ça, vous connaissez la forme optimale d'un verre de bière. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain. On va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. J'ai plein d'articles, mon Dieu, je pense que je n'aurai pas assez de l'année pour pouvoir voir tous ces articles avec vous de cette année 2024. Allez, c'est en tout cas la fin de cette émission. Je vous laisse tranquille et je vous retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite et sur le 94.9 Bande FM, je vais y arriver, Graphite.net bien sûr sur internet. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.